16 juillet 45, pour la première fois dans l'histoire humaine, une bombe nucléaire expérimentale explose dans le désert du Nouveau-Mexique. Cet événement va bouleverser le monde et les photos de l'explosion vont faire le tour de la planète avec le fameux champignon devenu depuis symbole de l'arme nucléaire. Quelques semaines plus tard, deux bombes seront lâchées sur Hiroshima et Nagasaki avec les conséquences que l'on sait. Et 70 ans après, la dissuasion nucléaire a fait son travail puisque la bombe a permis d'éviter la guerre entre les puissances nucléaires. Mais à quel prix ? L'ingénieur Jacques Villain publie aux éditions Fayard le livre noir du nucléaire militaire, un ouvrage dans lequel il raconte les accidents très graves et longtemps cachés provoqués par les arsenaux nucléaires militaires. L'occasion de s'intéresser à l'utilisation de l'atome pour des armes de destruction massive et de comprendre comment la physique est parvenue à fabriquer ces engins apocalyptiques. Pour en parler, Jacques Villain et Bertrand Barré sont mes invités cet après-midi. Bonjour,
bonjour
à tous les deux. Bienvenue Jacques Villain, vous êtes ingénieur, historien, spécialiste de la conquête de l'espace et de la dissuasion nucléaire. On va voir d'ailleurs qu'il y a un lien entre les deux avec vous au moment de la guerre froide. Et vous avez donc pu enquêter sur les déboires et les dérives liées à la mise au point de la bombe atomique avec des conséquences environnementales et humaines très importantes dont on va parler avec vous. Bertrand Barré, vous êtes également ingénieur, professeur émérite à l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Vous avez travaillé pendant 40 ans au commissariat à l'énergie atomique et puis chez Areva. Vous avez occupé un poste de conseiller scientifique. Vous nous expliquerez quels sont les principes physiques qui permettent justement à une bombe de générer une énergie aussi colossale. On va se retrouver dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent en direct sur franceinter.fr et puis également sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque et puis le quiz de la tête au carré, ce sera dans la dernière partie de l'émission avec Florence Porcel et deux nouveaux candidats. Violaine Ballet réalise l'émission préparée par Sylvain Guilbeault.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Sophie Bécherel, bonjour.
Bonjour.
Hier soir, l'INRA remettait ses lauriers, les récompenses maison, qui mettent en avant la valeur de 5 chercheurs et leurs résultats. Et le laurier d'excellence a été décerné à une personnalité qui a contribué de manière exceptionnelle au rayonnement de la recherche agronomique. Et ça a été attribué à François Tardieu, c'est un spécialiste des relations plantes-environnement.
Tout à fait, et c'est concomitamment à la remise de sa récompense que François Tardieu publie un nouveau résultat de recherche paru dans Nature, cette toute dernière étude. Il est quand même l'auteur de 130 publications scientifiques, hein, François Tardieu. Cette toute dernière étude révèle la capacité des plantes à se souvenir d'un manque d'eau et à utiliser ce souvenir pour adapter leur croissance. Et
les plantes auraient donc une mémoire ?
Alors c'est un raccourci journalistique, hein, vous l'avez deviné, mais on s'en approche en effet. Avant de préciser cette idée, un petit rappel historique, les plantes ont, comme nous, une horloge interne, et ça on le sait depuis quelques temps déjà. Ça signifie qu'elles réagissent au jour et à la nuit. Par exemple, si vous prenez un climat qui fluctue avec des journées sèches, eh bien, vous remarquerez que les plantes semblent en bon état le matin,
c'est vrai.
Elles fanent l'après-midi et elles récupèrent la nuit. Le lendemain, oui. Elles sont toutes pimpantes. Et cela, même si le sol est particulièrement desséché, la croissance de leurs organes suit ce même rythme. La pousse des feuilles est plus importante la nuit que le jour. Alors, l'une des découvertes de François Tardieu, ça a été de mettre au jour les mécanismes à l'œuvre pour expliquer ces changements, ces fluctuations. Sur de larges échantillons, on parle là de 500 plantes étudiées, avec des systèmes spécifiques qu'il a mis au point. François Tardieu est parvenu à mettre en évidence l'existence de robinets moléculaires dans les racines de ces plantes, les aquaporines. Écoutez le chercheur que j'ai joint dans son laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnemental au centre INRA de Montpellier.
Il y a des robinets moléculaires qui sont dans les racines, qui permettent d'ouvrir le chemin de l'eau le matin et plutôt de le fermer le soir. Et ce qu'on a montré, c'est que si la plante a subi un stress hydrique ces derniers jours, à ce moment-là, les oscillations sont plus fortes. Et donc la plante garde une espèce de mémoire du stress hydrique dans ses oscillations, ce qui lui permet d'optimiser le chemin de l'eau à l'échelle de la journée.
Quelle est l'utilité pour elle d'adopter cette stratégie ?
C'est un peu paradoxal parce qu'elle ferme les robinets des racines au moment où elle a le plus besoin d'eau. Donc l'intérêt, quand on est en stress hydrique, c'est un peu comme une éponge qui ne devient plus conductrice pour l'eau dès qu'elle est sèche, elle flotte, l'eau ne rentre plus. Ben, la plante elle a intérêt à pas trop dessécher le sol autour de ses racines, sinon le sol devient imperméable. Donc elle perd un peu l'après-midi en fermant les robinets, mais ce qu'elle a perdu, elle le regagne la nuit en évitant que le sol soit trop sec autour des racines.
Donc, si vous avez bien suivi, la plante fait en sorte de ne jamais se retrouver totalement à sec. Ce n'est pas tant une stratégie d'économie d'eau, finalement, que d'un équilibre qu'elle réussit à trouver pour parvenir à poursuivre sa croissance. Parce qu'on évoque là du maïs, c'est la plante qu'a étudiée François Tardieu, et ça n'est pas une plante qui cherche à survivre, mais bien une plante qui cherche à pousser, même si elle doit passer par des phases de petite pousse et de forte pousse, peut-on dire. La plante, par un mécanisme propre, s'adapte donc au manque d'eau.
J'imagine, Sophie, que les semenciers qui mettent au point de nouvelles variétés plus résistantes sont intéressés évidemment par ce type de recherche.
Évidemment, car cette recherche, au départ très fondamentale, peut trouver des applications. Ce que fait François Tardieu, c'est qu'il regarde les gènes de la plante et qu'il voit lesquels sont plus ou moins activés. Et sa technique est à ce point précise qu'il est possible pour une variété de savoir, en fonction de la météo, l'état de son développement à un jour J, si elle commence par exemple à fabriquer un épi ou si elle va fleurir.
Voilà donc laurier d'excellence pour l'INRA attribué à François Tardieu. Merci beaucoup Sophie Becherel. La prochaine fois qu'on se parlera, ce sera mercredi prochain. Et vous serez même en Allemagne, à Darmstadt, où se trouve le centre de contrôle de l'ESA, à l'occasion de l'arrivée donc, de Philae sur la comète.
Notre grand feuilleton, on a hâte.
Donc on sera avec vous en duplex de l'Allemagne et puis on sera nous de notre côté en direct de la Cité des Sciences à Paris avec le public pour vivre cet événement toute la journée sur Inter. Merci Sophie. Beds are burning, Midnight Oil sur France Inter.
Il arrive parfois que nous désespérons de l'état de ce monde. Ah, les savants.
La tête.
Que n'inventeront-ils encore
Carré.
Dans les temps à venir.
Le magazine scientifique de France Inter.
Ridicule tout ça.
Vous êtes aux premières loges pour assister à l'un des moments les plus importants de toute l'histoire de la science. Le premier essai à grande échelle d'une bombe à hydrogène. Pour tous ceux qui sont ici et pour notre patrie, souhaitons bonne chance à cette expédition.
20 secondes avant l'allumage. Veuillez mettre vos lunettes autour de la tête. Vous ne pourrez regarder l'explosion à l'œil nu que 10 secondes après son apparition.
Extrait d'un docu-fiction nucléaire, Histoire secrète, automne 1952. Donc les États-Unis déclenchent une des plus grandes explosions jamais causées par l'homme sur l'atoll d'Eniwetok dans l'océan Pacifique. Bombe donc à hydrogène qui portait le nom de code Digimac, qui pesait 65 tonnes. Cet extrait vient illustrer le sujet du livre noir du nucléaire militaire qui sort aux éditions Fayard. Jacques Villain, vous en êtes l'auteur, spécialiste de la dissuasion nucléaire. Et puis nous sommes également avec Bertrand Barré, professeur émérite à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires. Et les auditeurs nous rejoignent avec les questions qui arrivent déjà en direct sur franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque sur les réseaux ». Jacques Villain, vous racontez dans ce livre donc cette démesure à la fois budgétaire et puis cette déraison technologique hein, qui entoure cette course à l'armement nucléaire au moment de la guerre froide en particulier et les accidents qu'elle a entraînés du côté soviétique surtout d'ailleurs. Bien souvent, personne n'en a jamais rien su. Le secret militaire a très bien fonctionné. Comment est-ce que d'abord vous êtes parvenu à écrire un tel ouvrage étant donné l'opacité qui entoure le sujet ?
Internet.
Tout simplement, vous êtes resté chez vous. C'était votre poste de commandement.
Absolument. Je suis resté devant Internet pendant des mois et des mois. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que même les Russes aujourd'hui, il y a des sources d'informations, mais considérables.
Ouais.
Il y a des anciens amiraux qui ont écrit des bouquins sur tout ça. Enfin bref, les langues se sont un peu déliées en Russie depuis 1991.
Ouais, mais il faut valider quand même toutes ces informations.
Alors, il faut les recouper
sur Internet.
Alors il faut les recouper, ça c'est évident. C'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça que j'ai quand même mis en première page un avertissement disant voilà ce que je sais, mais c'est parfois difficile. Mais je dirais que l'essentiel des informations qui sont dans ce livre sont crédibles. Quoi.
Jean-Marc nous dit ceci, quand est-ce qu'on aura publiquement accès aux archives et qu'est-ce qu'on va y trouver selon vous ? Ben ça y est, donc du coup c'est fait, on a déjà
ce bouquin, c'est une synthèse des archives. Alors, j'ai pas voulu d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai pas voulu faire de biographie parce que je crois que j'avais 5000 sources. Donc j'aurais fait un bouquin où il n'y aurait eu quasiment que des sources bibliographiques. Donc c'était quand même pas l'objectif.
Donc vous faites le point finalement sur les connaissances dont on dispose aujourd'hui sur près de 70 ans de nucléaire militaire dans le monde.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est l'objet de votre travail.
Ouais.
Bertrand Barré, vous qui avez fait votre carrière dans l'industrie nucléaire, c'est un milieu où on cultive le goût du secret quand même. Hein.
Initialement, oui, de moins en moins.
Pourquoi ?
Parce que les souvenirs militaires s'estompant, l'industrie civile, maintenant, a compris que la doctrine « bien faire et laisser dire », ça ne marche pas de nos jours et qu'il est nécessaire de communiquer.
Ouais. C'est plus facile de parler quand même quand on est à la retraite ou pas ? Est-ce que vous auriez accepté notre invitation si vous étiez encore au CEA ou chez Areva ?
Absolument. Ouais. J'aurais probablement informé dûment mon supérieur que j'allais le faire.
J'imagine, oui.
Mais j'aurais été autorisé. J'y ai été autorisé dans le passé de nombreuses fois.
Ouais. Vous nous expliquerez en tout cas pendant l'émission comment les lois de la physique, c'est ça qui nous intéresse, hein, ont permis d'aboutir à la fabrication de bombes atomiques et comment des atomes peuvent libérer autant d'énergie. C'est simple, ça pourrait se résumer en une seule phrase, E égale MC2.
Oui,
au fond,
absolument.
C'est ça. Hein.
C'est ça. Les réactions nucléaires, nucleus en latin ça veut dire noyau, ce sont des réactions de certains noyaux, soit entre eux, soit avec des particules. Et au cours de ces réactions, on perd un petit peu de la masse des composants. Et depuis Einstein, depuis cette fameuse équation, on sait qu'une très petite différence de masse correspond à la libération d'une énorme quantité d'énergie. Et pour vous donner simplement un chiffre, si vous faites la fission, et on parlera de ce terme plus tard, la fission d'un gramme de plutonium vous donne plus de chaleur que la combustion d'une tonne de pétrole. Vous voyez, il y a un facteur 1 million.
Oui.
C'est énorme.
C'est absolument considérable. Et donc cette équation qui a permis malheureusement, et au grand dam d'Einstein lui-même, hein, de pouvoir mettre au point la bombe atomique.
Oui, mais elle a aussi permis de mettre au point l'énergie nucléaire proprement dite, qu'on est bien content d'avoir aussi.
Oui, enfin pas tout le monde.
Pas tout le monde, c'est vrai.
Jacques Villain, le nucléaire civil, les accidents justement de Tchernobyl et de Fukushima, c'est ce que vous dites, on fait passer au second plan, au fond, toutes ces affaires de nucléaire militaire.
Ben, c'est vrai que j'ai un peu le sentiment que tout ce qui touche au nucléaire, c'est un peu comme un iceberg. Et la partie émergée, c'était Tchernobyl et Fukushima. Et la partie qui était complètement émergée, c'était le nucléaire militaire. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. C'était pour retracer un peu ça. Cela étant... si vous voulez, quand on regarde Fukushima, enfin je parle sous le contrôle de Bertrand, c'est un drame, sans aucun doute. Mais quand on regarde le nombre de morts à Fukushima, ça n'a rien à voir avec le nombre de morts d'un accident nucléaire soviétique en 1957 à Kyshtym.
Oui. Et vous dites, c'est ça, il y a eu Tchernobyl avant Tchernobyl, au fond.
Ben absolument.
Et ça, c'est l'exemple précis de Kyshtym.
Qu'on n'a pas connu avant 1973, il a fallu que ce soit un physicien qui s'appelait Medvedev qui passe à l'Ouest, qu'arrivant en Grande-Bretagne, il a raconté tout ça, mais en Occident, personne ne l'a cru. Personne ne l'a cru. Il n'y a même pas un éditeur français qui a voulu éditer son bouquin. Mm-hmm. C'est quand même assez stupéfiant. Et il y a un moment, la CIA a dit oui, c'est sans doute vrai, parce qu'ils avaient envoyé des U2 au-dessus du site en question. Donc on a pris conscience qu'il se passait des choses en Union soviétique.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors exactement sur ce site?
C'était un dépôt de déchets nucléaires dans lequel, donc là on est en septembre 57, dans l'Oural. Et bien sûr, ce dépôt, il fallait le refroidir. Donc on a mis une circulation d'eau pour refroidir. Et puis à un moment, comme ça se passait un peu en Union soviétique, et ça se passe encore un petit peu en Russie aujourd'hui, on a laissé tomber le refroidissement d'eau. Et bien sûr, ce qui devait arriver, il y a eu d'infiltration de nitrate de je ne sais quel... Donc il y a eu réactions chimiques qui ont conduit à une dispersion des matières fissiles. Et toute une zone de 230 000 km² a été polluée. Il a fallu évacuer 200 000 personnes. C'est pire qu'à Tchernobyl.
Ouais. Hein. Et on estime à combien de morts alors?
Alors, le nombre de morts récemment, je crois que c'était 8630, quelque chose comme ça. Mais là encore, c'est difficile à évaluer parce que quand vous êtes irradié à une date T, 40 ans plus tard, vous allez mourir d'un cancer. Est-ce que c'est l'irradiation qui a introduit le cancer ou est-ce qu'on est mort d'un cancer? Ouais. Donc, c'est quand même pas facile à évaluer.
À cette époque, Bertrand Barré, ce type d'accident pouvait survenir sans que personne n'en sache rien quasiment alors?
Il pouvait se produire en URSS, sans que personne n'en cherche rien. Si c'était produit aux États-Unis, on l'aurait su.
Ouais.
Et en France aussi. Hein.
Alors, ce qui frappe les esprits, c'est vrai, vous l'expliquez tout à l'heure, Bertrand Barré, avec l'arme nucléaire, c'est en fait ce rapport extrêmement terrifiant entre la taille très réduite de l'arme et ses conséquences, ses effets dévastateurs. Parce que, comme au Japon, par exemple, avec Hiroshima, on peut tuer 200 000 personnes avec quelques kilos de plutonium seulement.
Ah oui, c'est quelques kilos, oui. Si vous voulez, les armes thermonucléaires d'aujourd'hui, on a à peu près 2 à 3... Enfin, 1-2 kilotonnes par kilo de masse. C'est-à-dire qu'une bombe qui est capable d'avoir 1000 tonnes, une puissance de 1000 tonnes comme une arme conventionnelle, vous pouvez la mettre dans votre poche. Donc c'est une énergie absolument gigantesque.
Et des effets évidemment qui se font sentir des années plus tard.
Alors il y a plusieurs types d'effets. Il y a d'abord l'effet de souffle lorsque la bombe explose, ça c'est évident, avec des pressions assez considérables. Il y a l'effet thermique. À Hiroshima, c'est essentiellement l'effet thermique qui a tué, qui a brûlé. Les brûlures. Hein. Et il y a l'effet de rayonnement, bien évidemment, qui, lui, peut se dérouler sur 40 ans et même au-delà.
Et les effets environnementaux, on en parlera également. Les essais nucléaires en particulier.
Ouais.
Bertrand Barré.
Oui, alors, si on revient sur Hiroshima, certaines personnes s'imaginent sans doute que Hiroshima, c'est un désert radioactif. Mais si vous avez été au Japon, vous verrez que c'est une métropole florissante.
Ah oui, c'est une très grande ville.
Que vous pouvez aller à l'endroit, au point zéro
où a été lâchée la bombe.
De la bombe, vous recueillir.
C'est un musée aujourd'hui.
Le mémorial,
enfin, c'est un mémorial.
Qui est fascinant. Et vous risquez rien du tout. Donc il y a à la fois, c'est sûr que les destructions, c'est l'effet de souffle, c'est les brûlures. La part rayonnement. Heureusement, elle est faible et surtout, à l'heure actuelle, elle a disparu.
Il y a des relevés qui sont effectués régulièrement, sur place.
Bien sûr.
Et donc, qui indiquent qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de la radioactivité liée au largage de la bombe à l'époque.
Ouais.
Alors ce livre, Jacques Villain, ce livre noir du nucléaire, ben, on apprend beaucoup d'affaires, et particulièrement à l'Est. Hein, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en URSS sur la période 1947-1991. C'est vraiment l'URSS qui arrive en tête, hein, c'est ce que vous expliquez, des drames liés aux accidents militaires.
Oui, complètement. Et ça commence dès 1945. C'est-à-dire que la construction des grandes infrastructures nucléaires... En Union soviétique. D'abord, on va faire appel au goulag, aux gens des goulags.
Oui. Hein.
Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire des goulags, parce que là, ça mériterait trois émissions, sans aucun doute.
Mais on a utilisé les prisonniers, en tout cas.
On a utilisé les prisonniers pour construire les infrastructures. Et quand ces infrastructures ont été construites, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire des prisonniers. Mais on ne pouvait pas les relâcher, parce qu'ils étaient détenteurs des secrets, c'est-à-dire de l'endroit où étaient construits les réacteurs, etc. Donc d'abord, on a créé des goulags encore plus au nord, en Sibérie. Et puis ce qu'on sait, c'est qu'on en a fusillé pas mal, quand même, des gens des goulags. Donc ce sont les premières victimes du nucléaire en Union soviétique. Et puis après, bien sûr, il y a eu les systèmes qui ont été opérationnels, et surtout les sous-marins. Les sous-marins soviétiques, c'est un drame, enfin c'est une série de drames.
Ouais. Qui s'est poursuivi jusqu'à très récemment, d'ailleurs, avec le Kursk.
Ah, il y en a toujours. Il y en a même eu encore un en 2003. Il y a eu, dans les années 2000, il y a eu deux sous-marins qui ont coulé, dont l'un avec 800 kilos d'uranium enrichi à bord.
Donc ça, c'est l'héritage de la guerre froide, c'est-à-dire un nombre très important d'incidents, avec des pertes, c'est ça, en mer comme sur terre.
Il y a à peu près 1000 marins soviétiques qui ont péri dans ces sous-marins.
Ouais. Ouais. Bertrand Barré, est-ce que justement, puisque Jacques Villain en parle, toutes ces armes nucléaires qui ont été perdues, alors par avion ou dans des sous-marins, est-ce que ça représente une grave menace aujourd'hui pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut imaginer si ces armes venaient à exploser ou si elles contaminaient les océans, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs déjà.
Alors celles qui ont été perdues sur Terre, si je peux dire, ont été récupérées. Donc la question est celles qui sont au fond de la mer. Et c'est difficile de répondre parce qu'on n'a pas, dans le fond, été voir. Même les sous-marins américains, le Scorpio, le Stretcher, ils sont à très grande profondeur. On n'a pas mesuré de relâchement radioactif venant de chez eux, mais... On peut pas voir sur place.
C'est inouï quand même, parce qu'il n'y a pas d'études qui sont réalisées sur site.
Il y a un sous-marin qui inquiète, c'est le Komsomolets, le K-278 qui a coulé à 200 km au large des côtes de Norvège. Et c'est donc un sous-marin, comme tous les sous-marins soviétiques avaient deux réacteurs. Oui, ça c'était Khrouchtchev. Hein. Il fallait faire mieux que les Occidentaux. Les sous-marins occidentaux ont un réacteur, Khrouchtchev en voulait deux.
Oui. Hein.
Bon. Donc à chaque fois qu'il y a un sous-marin qui coulait, c'était deux réacteurs qui coulaient. Et ce sous-marin comme Komsomolets qui a dû couler, si ma mémoire est bonne, en 78, quelque chose comme ça. Et on s'est rendu compte en 94 que les torpilles, parce qu'il y a des torpilles nucléaires à bord, eh bien, on commençait à avoir des dispersions de plutonium. Et donc, la Norvège est très inquiète. Il y a eu plusieurs plongées qui ont été faites pour colmater ce qu'ont fait les Russes. Et les Russes disent, depuis 5 ans, on a stabilisé la chose.
Ouais. Mais bon, c'est-à-dire qu'on laisse évidemment les armes dans la mer. On n'a pas moyen de les remonter pour en faire quelque chose.
C'est pas toujours évident, surtout quand c'est à grande profondeur. Pour la petite histoire, les Américains ont fait ça en 68 avec le premier sous-marin soviétique qui a coulé au large d'Hawaï. Alors, ce n'était pas un sous-marin nucléaire, c'était un sous-marin à propulsion diesel, mais il avait 3 missiles nucléaires à bord. Et donc, Howard Hughes a construit un grand bateau avec des grands treuils pour récupérer le sous-marin à 4000 mètres de profondeur. Donc, ils ont progressivement remonté le sous-marin. Mais quand ils sont arrivés à pratiquement en surface, le sous-marin s'est cassé en deux.
Oui.
Et on ne sait pas trop ce que la CIA a récupéré. On ne sait pas trop, là. Donc, récupérer des sous-marins à des grandes profondeurs comme ça, c'est quand même pas facile et ça coûte très, très cher.
Ces armes nucléaires, on les trouve un peu partout dans les mers du globe?
Alors, il y en a... je dirais que le point... Il y a deux points, deux endroits les plus dramatiques de ce point de vue. C'est la mer de Kara. C'est-à-dire, vous voyez la Nouvelle-Zembe qui se trouve au nord de la Russie. Là, ça a été le dépotoir du nucléaire russe et soviétique. Dans cette mer de Kara, actuellement, il y a 23 réacteurs nucléaires qui ont été coulés, plus 2 sous-marins nucléaires de coulés. Alors, petite histoire là aussi, je parle sous le contrôle de Bertrand. Je crois que les normes internationales disent qu'on peut couler un système nucléaire, mais par 4000 mètres de fond, enfin, il y a au moins une profondeur admissible. Les soviétiques, c'était 18 mètres.
Oui, d'accord. Il y a une petite marge. Oui.
Un jour, ils ont coulé un sous-marin comme ça, dont ils voulaient se débarrasser, et la proue du sous-marin sortait de l'eau. Ben, ils ont fait, ils ont tiré au canon dessus pour le couler. Enfin, vous voyez quoi. On n'a pas les mêmes méthodes en Occident qu'en Union soviétique à l'époque.
Ah, ils ont des méthodes expéditives. D'ailleurs, vous racontez aussi dans le livre que pour certains grands travaux en URSS, on a utilisé la bombe atomique pour creuser des canaux, par exemple.
Et bien sûr. Et le lendemain, on avait l'agence Stas qui publiait un film dans lequel on voyait des gens qui se baignaient dans le lac qui avait été construit.
Pour prouver que tout allait bien, évidemment. Bertrand Barré, on pourrait faire ça encore aujourd'hui? Ça a été envisagé pour d'autres pays?
Non, en fait, à l'époque, beaucoup de pays avaient un programme qu'on appelait Application pacifique des explosions nucléaires. Et il y avait des projets considérables. Il y a eu aussi en Russie, par exemple, le fait d'augmenter la production de gaz en fracturant les réservoirs avec des bombes atomiques. Ils l'ont vraiment fait. Et du gaz qui allait ensuite jusqu'en la cuisinière à Moscou.
Pour le canal de Panama, je crois qu'il y a eu un projet.
Voilà, il y a eu un projet américain cette fois-ci de doubler le canal de Panama. En rasant l'Amérique du Sud et en creusant à coup de bombe.
Voilà, tout simplement.
Et ils ont mis, ils ont essayé, testé, pour savoir quelle était la bonne puissance et la bonne profondeur de la bombe pour faire le plus gros cratère possible sans contaminer.
Mais ça n'a pas été fait.
N'a pas été fait.
Évidemment. Jacques Villain, juste encore un mot sur les armes qu'on peut trouver dans les océans. En Méditerranée aussi, on en a
ou pas ? En Méditerranée, il y a deux bombes américaines qui ont été perdues par un B-52. Mm-hmm. Dans le golfe de Gascogne, il y a un sous-marin soviétique qui a coulé, un sous-marin d'attaque. Il y en a un autre au large de Brest.
Tout ça est très rassurant.
Écoutez...
Voilà, on pourrait faire une cartographie.
Alors, heureusement... Ah oui, on peut faire une cartographie, oui. Heureusement, c'est quand même par des grands fonds. Donc, c'est un moindre mal, si je puis dire.
Allez, on vous retrouve dans un instant. Beaucoup de questions pour vous, je vous les transmets juste après avoir écouté Assaf Avidan. Over my bed, Assaf Avidan.
La tête carrée sur France Inter.
Jacques Villain, auteur de ce livre, Le Livre Noir du nucléaire militaire, c'est chez Fayard. À ses côtés, l'ingénieur Bertrand Barré, qui va nous expliquer dans un instant comment on arrive à produire autant d'énergie pour la fabrication des bombes atomiques. Et puis d'abord, les messages des auditeurs. Jean-Paul nous dit ceci. Est-ce que le traité de non-prolifération nucléaire a permis véritablement d'empêcher une guerre nucléaire? La dissuasion a-t-elle été efficace? Et elle leur restera-t-elle face à l'instabilité actuelle, Jacques Villain?
Alors, c'est vrai que le traité de non-prolifération qui a été signé en 68, qui a été reconduit en 95 et dont les discussions vont recommencer là dans peu de temps, c'est vrai qu'il y a eu un effet, je dirais, assez positif. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays, comme la Suisse, comme la Suède, comme le Brésil, l'Argentine, qui s'engageaient dans le domaine du nucléaire militaire, ont signé ce traité de non-prolifération et ont refusé d'accéder au nucléaire militaire. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, depuis 68, le nombre de pays qui ont accédé à l'arme nucléaire, c'est l'Inde, le Pakistan, Israël l'avait un petit peu avant, ou c'était à cette époque-là à peu près.
Mais ne l'a jamais reconnu.
Ah non, jamais. Ouais.
Et la Corée du Nord.
Donc, il y a eu en fait, je dirais, que entre guillemets, trois pays nouveaux. Donc, le traité de non-prolifération a eu un effet positif de ce côté-là, c'est vrai. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le traité de non-prolifération, dans son article 10, n'interdit pas à un pays de se retirer du TNP. C'est le cas de la Corée du Nord, qui avait signé ce traité. Et puis en 2006, elle s'en est retirée. Donc on peut très bien imaginer que dans le futur, d'autres pays pourraient accéder à l'arme nucléaire et faire fi du TNP.
Neuf pays possèdent aujourd'hui la bombe. États-Unis, Russie, Chine, Pakistan, Royaume-Uni, France, Israël, donc il ne l'a pas reconnu. Oui. L'Inde, la Corée du Nord, en attendant peut-être un dixième dans ce club très fermé, c'est l'Iran.
Alors ça, c'est le grand débat depuis 10 ans, hein, et avec, et tout le monde le sait, des négociations qui traînent à n'en plus finir. Donc je ne sais pas ce qu'il adviendra de ces négociations, mais il est certain que l'Iran a de grandes ambitions au Moyen-Orient. Ça, c'est tout à fait évident, d'autant plus qu'il est particulièrement isolé, pays chiite au milieu de pays sunnites. L'Arabie saoudite ne laisse pas les choses faire. Elle vient encore de déclarer, et le roi Abdallah a déclaré, que si l'Iran accédait à l'arme nucléaire, elle, Arabie saoudite, accéderait également. Et il y a déjà un accord entre le Pakistan et l'Arabie saoudite.
Ouais, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un pays comme l'Arabie saoudite, extrêmement riche, possède déjà l'arme nucléaire?
L'information de la semaine dernière, c'est que le Pakistan aurait stocké des armes nucléaires sur le territoire de l'Arabie saoudite.
Ah, stocké. Donc c'est une sorte de garage, quoi. On paye...
Absolument. Ouais. Et l'Arabie saoudite possède des missiles. Elle a acheté 60 missiles chinois en fin 80. Alors, je ne sais pas dans quel état ils sont aujourd'hui. Mais elle a aussi acheté des missiles pakistanais Gauri de 2000 km de portée. Donc, vous voyez, les choses peuvent évoluer singulièrement dans les années qui viennent.
Gilles nous dit ceci. Dans les années 90, je me suis rendu sur l'atoll de Mururoa. J'y ai passé 2 jours étant militaire à l'époque. Ce dont je me souviens surtout, c'était l'ordre formel de ne pas se baigner côté lagon et aussi de ne faire aucune photo.
Ah oui.
Dans les années 90, pour ce témoignage. Quid des munitions à l'uranium appauvri? Nous demande Larry, Bertrand Barré.
Alors là, on n'est pas du tout dans le domaine nucléaire, si je peux dire. L'uranium appauvri est simplement une matière extrêmement dense. Et donc, pour percer des blindages de chars, si vous utilisez des obus-flèches en uranium appauvri, c'est plus efficace que des obus-flèches en acier. Et donc, à un moment donné, il y a eu effectivement pas mal de munitions en uranium appauvri. Alors, suite à la première guerre du Golfe, où il y a eu des contaminations à l'utilisation de ces munitions, à l'heure actuelle, je pense que plus personne n'en a. Mais au départ, ça n'a rien de nucléaire. Non, c'était une question densité du métal. Voilà.
D'accord. Alors, les principes justement physiques de la bombe atomique, donc de l'utilisation de l'atome pour produire cette énergie colossale qui fait justement la puissance de ces armes. Donc, il y a deux réactions, c'est ça? C'est
voilà.
Fission et fusion.
Il y a fission et fusion. La fission, qui utilise un mécanisme que je vais décrire, a servi à faire les bombes dites A. Et c'est aussi elle qui, dans d'autres configurations, permet de faire de l'électricité nucléaire. Et la fusion, qui jusqu'ici a permis de faire les bombes dites H, mais qui, dont les applications civiles éventuelles sont encore très lointaines. Donc, qu'est-ce que c'est la fission? La fission, c'est la propriété qu'ont certains atomes très lourds. Il n'y en a pas tellement, on va dire l'uranium-235, le plutonium-239. Quand ils absorbent un neutron, de devenir tellement excités que, dans la plupart des cas, ils se coupent en deux.
Ouais.
Quand ils se coupent en deux, d'une part, ils émettent...
Donc ça se casse réellement.
Ils se cassent réellement, il y a deux morceaux. Et ça dégage énormément d'énergie, parce que justement, cette différence de masse qu'on évoquait tout à l'heure. Et surtout, au moment où il se coupe en deux, il relâche des nouveaux neutrons. Et ces nouveaux neutrons, à leur tour, peuvent être absorbés par un autre atome, et on a ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Alors, si vous vous êtes intéressé par la production d'énergie, vous vous arrangez, vous dessinez votre cœur, vous le construisez, pour que vous avez, à la suite d'une fission, un seul neutron qui va faire la fission suivante, et donc vous avez une réaction stable et contrôlée. Ouais.
Donc le principe de la bombe, c'est ça, au fond.
Alors le principe de la bombe, au contraire, c'est de dire, eh ben, comme il y a deux ou trois neutrons qui partent, il faudrait que chacun d'eux aille faire une nouvelle fission. Et de génération, on passe une fission, en donne deux, en donne quatre, en donne huit, en donne 16.
Ouais.
Et très très vite, vous avez tellement de fissions qu'il y a énormément d'énergie qui est relâchée. Et il faut savoir que le temps de passer d'une fission à l'autre, c'est un 40 000ème de seconde. Donc ça va très très vite. Et donc finalement, pour faire une bombe A, ce qu'il vous faut, c'est de la matière très concentrée dans ces noyaux lourds-là. Et en plus, il faut que vous produisez votre énergie avant que l'énergie elle-même ait détruit votre bombe.
Ouais.
Donc vous avez une espèce de course entre le développement de la production d'énergie et le fait que dès qu'il y en a trop, elle est pulvérisée et ça s'arrête.
Ouais. Et donc ça, on l'a découvert quand, ce principe?
Alors,
exactement,
ce principe a été découvert en tant que principe dès 1939, c'est-à-dire dès l'instant où on a vu que la fission donnait des nouveaux neutrons.
Ouais.
Tout de suite, c'est l'équipe de Joliot-Curie à l'époque
qui
l'a découverte et qui en a fait des brevets classés secrets, si je peux dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais qui dès le départ a dit, effectivement, si cette réaction se développe exponentiellement de 4, 8, 16, etc., eh bien, vous avez la possibilité d'un explosif extrêmement puissant.
On imagine ce qui a dû se passer dans leur tête quand ils ont fait cette découverte.
Eh bien,
parce qu'évidemment, tout de suite, ils ont dû anticiper les conséquences aussi de cette réaction.
Oui, mais rappelez-vous, 1939, le contexte politique en Europe était quand même extrêmement tendu, ce qui explique d'ailleurs le tampon secret sur les brevets.
Ouais. Jacques Villain.
Oui, non, mais c'est vrai qu'à cette époque-là... Alors, je ne suis pas certain qu'en 1939, on ait bien appréhendé, je dirais, l'ensemble du problème. Hein.
Mais le principe...
Mais le principe, était appréhendé, ça, sans aucun doute. Mais c'est vrai que... À la fois Léo Szilard, qui était un juif hongrois qui avait quitté l'Europe en 1933 à l'avènement d'Hitler pour aller aux États-Unis, c'est lui qui a forcé en quelque sorte Einstein à écrire cette lettre au président Roosevelt. Il s'agissait pour eux de faire en sorte que l'Allemagne ne soit pas la première à avoir
la bombe.
Donc c'était quand même, je dirais, une œuvre de salut public quasiment.
Là aussi, il y avait une course contre la montre.
Mais oui, bien évidemment.
Effectivement.
Mais paradoxalement, on va réussir à battre, enfin surtout les Américains vont battre les Allemands sans utiliser la bombe, mais cette bombe, ils vont l'utiliser contre les Japonais. Donc, même si ça n'avait pas commencé à ce moment-là, on l'aurait eu plus tard, la bombe. Ça faut...
Et la fusion,
c'est intéressant aussi, si vous voulez, c'est que Einstein a écrit cette lettre en 1939, mais c'est simplement en novembre 1941 que finalement Roosevelt a lancé feu vert au projet Manhattan.
Absolument. Et alors la fusion,
alors, la fusion,
deuxième type de réaction.
Voilà, c'est l'inverse. On prend au contraire des noyaux les plus petits possibles, des noyaux d'hydrogène normal ou d'hydrogène un peu particulier, et on essaye de les fusionner ensemble. Si on réussit, on relâche aussi énormément d'énergie.
Ouais. Ça, c'est pour les bombes qu'on appelle thermonucléaires,
oui,
c'est ça?
Les bombes H ou thermonucléaires.
Ouais.
Alors, la difficulté, c'est que ces noyaux, ils ont une charge électrique positive. Donc, c'est comme si vous essayiez de rapprocher deux aimants avec les mêmes pôles. C'est très difficile. Alors, dans les étoiles, ça se fait parce qu'elles sont tellement grosses que la gravité, finalement, écrabouille les protons entre eux. Ils ne peuvent pas faire autrement, mais ça leur prend déjà pas mal de temps. Mais sur Terre, ce n'est pas possible. Et donc, à l'heure actuelle, la seule application de la fusion, elle est militaire. C'est-à-dire qu'on utilise une amorce, une bombe A, l'énergie d'une bombe A pour écrabouiller justement ce mélange d'atomes légers et le forcer à amorcer la fusion.
Fabrice demande comment on détruit une bombe atomique sans évidemment la faire sauter.
Eh bien, c'est en deux temps. La première chose, c'est on la déboulonne, on la démonte. Mais vous avez à ce moment-là deux moitiés de bombe et vous avez notamment la matière fissile qui est toujours là. Et pour se débarrasser de son caractère fissile, eh bien, la seule façon efficace, c'est d'en faire des combustibles et de les mettre dans des centrales nucléaires.
Oui, donc c'est du recyclage au fond.
Et c'est du recyclage.
Et ça prend du temps. Actuellement, il y a 4000 bombes qui sont en attente de démantèlement aux États-Unis. Il y a une file d'attente considérable.
Écoutons ensemble l'extrait du film Docteur Follamour ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, cette comédie militaire de Stanley Kubrick.
Les imbéciles, Les fous, les imbéciles.
Mais que se passe-t-il?
La machine infernale nucléaire.
La machine infernale, qu'est-ce que c'est que ça?
Un dispositif pour détruire toute vie humaine et animale sur Terre.
Toute vie humaine et animale?
Quand elle explosera, elle produira une quantité assez grande de retombées radioactives pour que dans les 10 mois qui suivront, la surface de la Terre soit aussi déserte que la Lune.
Ah, voyons, de Sadesky, mais c'est ridicule. Nos recherches ont démontré que les plus fortes retombées ne seraient plus mortelles au bout de 15 jours.
Vous n'avez jamais entendu parler du cobaltorium G?
Non, mais qu'est-ce que c'est?
Le cobaltorium G a une période de radioactivité de 93 ans.
Merci, le président. Il nous reste de sérieuses chances de préserver un noyau de spécimens humains en les abritant au fond de galeries de mines de profondeur suffisante. La radioactivité ne pénétrerait pas dans un puits d'environ 300 ou 400 mètres. Combien de temps faudrait-il y rester? Eh bien, attendez. Peut-être une centaine d'années.
Voilà, c'est la voix de Peter Sellers, oui. dans ce film Docteur Follamour, Bertrand Barré. Je sais que vous aimez beaucoup ce film de Stanley Kubrick, sorti en 64 et donc situé en pleine guerre froide, 2 ans après la crise de Cuba, Jacques Villain.
Oui, tout à fait. Oui, alors en deux mots, la crise de Cuba. Juillet 62, les Soviétiques déploient des missiles balistiques à Cuba, donc ils sont capables de couvrir pratiquement toute la moitié du territoire américain. Ouais. Kennedy n'accepte pas, bien évidemment. La crise monte, on met en alerte les B-52, etc. Il y a un blocus maritime qui est organisé pour pas que les sous-marins, les navires de commerce arrivent à mettre de nouveaux missiles. Et il se passe sous l'Atlantique. Un événement très important, c'est qu'il y a un sous-marin soviétique qui est chassé par un destroyer américain. Et à cette époque-là, les sous-marins soviétiques n'étaient pas capables de communiquer avec Moscou. Donc, le règlement de la marine soviétique, c'était pour tirer une arme nucléaire, il faut que les 3 officiers à bord soient d'accord. Et ce jour-là, le commandant demande à tirer une torpille nucléaire parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans le sous-marin et le lieutenant n'est pas d'accord. Donc là, on a sans doute évité la guerre mondiale.
Allez, cette question de Viron, est-il normal qu'un seul homme, en l'occurrence le président de la République, puisse appuyer sur un bouton qui déclencherait une guerre nucléaire? Et en quoi consiste ce déclenchement? Alors très vite, on imagine le scénario. On est à l'Élysée d'abord. Hein. C'est là que se trouve le bouton.
Absolument.
C'est un bouton d'ailleurs?
Non, c'est pas tout à fait un bouton, c'est un code.
C'est un code
qu'il faut envoyer aux unités opérationnelles. Et puis il y a encore des contrôles par la suite. Dans le sous-marin, le commandant et le commandant adjoint doivent rentrer le même code. Donc il y a quand même un tas de
ces codes. Il n'est pas réellement tout seul, le président de la République.
Non, il n'est pas tout seul.
Il est très entouré.
Oui, absolument.
Évidemment. Ouais. Une dernière question. Est-ce qu'on retrouve encore, dit Jacques, des traces des essais nucléaires français effectués au Sahara, Bertrand Barré?
Oui, en particulier, il y a un essai qui s'est mal passé. C'était un essai tiré à flanc de colline. La colline s'est fissurée. Pas mal d'assistants, y compris le ministre Messmer, se sont fait contaminer.
Absolument. Et Palevski,
les deux, effectivement. Et donc, à l'heure actuelle, on peut encore mesurer la contamination cet endroit-là.
Ouais. Plus de 400 essais ont eu lieu dans l'atmosphère, c'est ça à peu près,
oui, je crois, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et 2400 au total.
Voilà, et on retrouve toutes ces anecdotes, ces histoires, et plus que des anecdotes d'ailleurs, des histoires dramatiques sur cet ouvrage, dans cet ouvrage, le livre noir du nucléaire militaire que vous signez, Jacques Villain. Merci beaucoup d'être venu dans La Tête au Carré. Merci Bertrand Barré également pour vos explications. Allez, dans un instant, le quiz de La Tête au Carré avec Florence Porcel. Ce sera dans un instant après François and the Atlas Mountain.
Bien sûr, je veux tout te dire à temps, tout ce que tu veux, m'entendre dire à temps. Car plus le temps passait vraiment, le doute m'était rentré au ventre, m'immobilisait. Du sort me rire, quand tout s'en est allé. Coule toujours les fontaines de l'été. Des enfants nus courent les rues, jettent leur la soie pour qu'ils ne prennent pas froid. Couvre-les de souvenirs. Sable pour que réveille
Bien sûr, titre de cette chanson François and the Atlas Mountain sur France Inter. L'heure de tester vos connaissances scientifiques, c'est le quiz de la Tête au Carré. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Porcel avec nous dans un instant. Deux nouveaux candidats vont s'affronter, vous nous les présentez.
Mais oui, nous avons Evelyne et Claude. Bonjour à tous les deux et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Florence.
Bonjour Evelyne.
Bonjour Mathieu,
et moi, j'ai droit à mon petit bonjour. Attention Evelyne, hein, si vous voulez que je vous pose de bonnes questions, il faut prendre soin de moi aussi. Hein.
Oui, oui, non, mais je pense beaucoup à vous. De toute façon, je ne connaissais pas Florence jusqu'à présent.
Vous vous rattrapez bien.
Evelyne, vous habitez dans le Puy-de-Dôme.
Oui.
Et vous avez été professeur de sciences de la vie de la Terre, c'est ça?
Oui.
Vous êtes à la retraite.
Il y a déjà un moment quand même, hein, donc on oublie vite.
Bon, mais il y aura peut-être des questions qui vont vous inspirer tout à l'heure, on va voir ça.
Espérons.
Face à vous se trouve Claude qui habite à Bordeaux. Bonjour Claude.
Bonjour, bonjour.
Et vous êtes libraire.
Quel beau métier.
Je suis libraire sur Internet, spécialisé dans les livres photos.
Ah d'accord, très bien. Donc vous n'êtes pas dans une boutique, parce qu'il y a des belles librairies aussi à Bordeaux. Hein.
Il y a des très belles librairies, mais un jour peut-être, oui, j'ouvrirai ma librairie.
Pas de rayon science donc pour vous, apparemment.
Non, j'ai une formation scientifique à la base.
Ah, très bien. Dans quel domaine ?
Les industries alimentaires. Mais bon, j'ai fait le cursus des écoles d'ingénieurs, en fait.
Evelyne et Claude, en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Vous allez vous affronter dans un instant avec, à la clé, évidemment, un livre de photos
astronomiques, Le Grand Atlas de l'Astronomie, préfacé par Hubert Reeves.
Allez, on commence avec la question d'actualité, Evelyne et Claude. Et pour cette question d'actualité, je voudrais d'abord vous faire entendre le cri d'un célèbre animal en rut. Oh, c'est chouette ça, hein? Oui.
Oui.
Ça vous plaît ça, Florence, hein?
Oui, je trouve ça très drôle.
Ces animaux, celui que nous entendons, souffrent depuis plusieurs années, Evelyne et Claude, d'infection à chlamydié, une maladie sexuellement transmissible. Mais des chercheurs viennent de mettre au point un vaccin pour éviter que cette espèce vulnérable d'Australie ne disparaisse. De quel animal parle-t-on, top chrono? Vous avez 30 secondes. Allez, animal d'Australie, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Kangourou ?
Non. Mais, je pourrais vous aider, mais...
Oh bah non, ce serait dommage. Que vient-on
entendre ? Une autre espèce de marsupial, peut-être ?
Alors, donnez-nous vos propositions. Il nous faut vraiment le nom de l'animal, Evelyne et Claude.
Les kiwis, c'est bien trop petit pour faire un bruit comme ça.
Oui.
Vous tournez autour, hein, en tout cas, Claude.
L'ornithorynque ?
Non.
Alors, Evelyne.
Voilà, je cherche.
Voilà, dépêchez-vous, on arrive à la fin déjà du chrono.
Alors, il s'agissait des koalas.
On était dans les cas, Claude. Voilà. Hein, vous nous avez proposé le kangourou, le kiwi, et ben j'attendais le koala.
Oui, vous avez dit, vous tournez autour, mais je n'entendais pas dans ce sens-là.
Voilà, oui. Pas de chance. Alors, il y a donc un vaccin qui a été mis au point pour les sauver, Florence.
Mais oui, bah alors ils étaient 10 millions, hein, les koalas, avant l'arrivée des premiers colons. Ils ne sont plus que 43 000 aujourd'hui et ils sont très affectés par cette maladie, donc les chlamydiés, qui peut provoquer la cécité et la stérilité. Mais des chercheurs sont en train de mettre au point un vaccin qui a donné de très bons résultats sur un groupe de 30 koalas. Ils voudraient maintenant continuer les tests sur un nombre plus important d'animaux pour éviter qu'ils ne disparaissent.
Voilà, et Claude, j'aurais pu répondre oui à votre question lorsque vous me demandiez s'il s'agissait d'un marsupial. Hein,
parce que effectivement,
marsupial arboricole, voilà. Mais je ne voulais pas trop vous mettre sur la voie non plus. Allez, vous êtes ex-aequo pour l'instant. On passe aux questions de rapidité. 1 minute 30, 7 questions. Et si vous êtes prêts, eh bien nous lançons immédiatement le chrono. Evelyne, vous êtes là toujours ?
Oui, je suis toujours là.
Allez, c'est parti. Combien y a-t-il de jours dans une année bissextile ?
366.
Bien sûr, Claude. Quel animal vénéré dans l'Égypte antique est aujourd'hui également vénéré dans la culture web ?
Chat.
Le chat, Claude. Quelle formation géologique particulière fait l'objet d'un parc national à Marseille ?
Les calanques.
Je crois que c'est Claude qui a donné la bonne réponse le premier. Hein. Quel élément est le plus souvent utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires ?
Le plutonium ?
Non.
L'uranium 230.
Oui, alors qui a donné la réponse là, Claude ou Evelyne ? Je crois que c'est Evelyne. Hein.
Oui, nous sommes aussi.
Quel tissu du corps humain fabrique des cellules sanguines ?
La moelle osseuse,
Claude, c'est une bonne réponse. Quel célèbre scientifique français, pionnier de la microbiologie, a dit « La science n'a pas de patrie ».
Pasteur,
Louis Pasteur, bonne réponse de Claude. Et puis enfin, quel terme désigne les petites mouches très prisées des laboratoires, notamment dans la...
Drosophiles.
Les drosophiles, c'était Evelyne, voilà.
Claude a été hyper rapide.
Très rapide.
Il fallait vraiment être très rapide. Et comme vous avez deux voix qui se ressemblent un tout petit peu,
oui,
j'avoue que j'avais un tout petit peu de mal à vous départager. Alors pour l'instant, Florence, on en est où ?
Alors ça fait 20 points pour Claude et 15 pour Evelyne.
Et le mot mystère, c'est la dernière manche de notre quiz. Evelyne, vous avez ce mot sous les yeux. Est-ce qu'il vous inspire ?
Je vais essayer. Il faut qu'il le trouve, en fait.
Hein, absolument. Et vous avez 45 secondes pour en donner la définition à Claude. Et je vous indique même que nous lançons tout de suite le chrono. Evelyne, c'est à vous.
Alors, il s'agit d'un fruit oléagineux à coque, très prisé dans les apéritifs, notamment...
Noisette, cajou...
Non.
Continuez, Claude, vous allez le trouver.
On en fait de l'huile...
L'olive.
Non.
De l'huile à friture.
Mais on est dans le même esprit, effectivement.
Elle monte bien en température, elle n'a pas de problème. Elle est un peu moins maintenant, on l'utilise un peu moins maintenant, mais c'est un fruit d'origine exotique, hein, qui ne pousse pas en France.
Claude, allez, cette huile effectivement pressée qu'on utilise en cuisine ou même en savonnerie.
Oui.
Si je vous dis cacahuète, vous pensez à quoi ? Aïe, aïe, aïe. Là, je voulais vous aider.
Non, j'ai un trou, là.
C'était l'arachide.
Voilà.
Et oui, tout simplement. Aïe. Alors maintenant, c'est à vous, Claude. Vous avez ce mot mystère sous les yeux. On va souhaiter bonne chance, Evelyne, pour le découvrir. Même chose, 45 secondes, c'est à vous.
Alors, c'est un terme générique pour désigner un matériau de base de l'industrie de l'habillement. Donc, c'est tout matériau tressé, a priori, qui sert à faire des habits. On parle, c'est aussi la désignation de l'industrie correspondante, qui était très développée dans le nord de la France.
Absolument.
L'amidon...
Non,
c'est...
Non, générique.
C'est un matériau donc, que vous pouvez vous-même acheter en rouleau au mètre.
Et qu'on peut tisser.
Tissu.
On peut le tisser, effectivement, pour donner des vêtements.
Coton, voilà. Tissu.
Pensez à l'industrie, c'était une bonne idée de Claude, ouais, ça, Evelyne.
Avec tissu, vous êtes proche, c'est vraiment un terme générique.
Et oui.
Aïe. Polymère.
Eh non, le textile. C'était la réponse, mais
tout
je pense que.
Le textile.
Eh ben
et
voilà.
Oui.
C'est tellement simple qu'on n'a pas eu la bonne réponse.
D'accord,
c'est dommage.
D'accord.
Alors, on fait le total des points.
Bah du coup, ça ne bouge pas. 20 à 15, c'est donc Claude qui remporte le jeu. Félicitations, Claude.
Eh ben super. Merci beaucoup. Félicitations à Evelyne également.
Désolée. Nettement plus rapide, c'est sûr.
Claude, vous remportez un beau livre.
Ben oui, donc le grand atlas de l'astronomie préfacé par Hubert Reeves aux éditions Atlas. Il est sorti la semaine dernière, voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci d'avoir participé. Franceinter.fr pour les auditeurs qui souhaitent faire comme vous. Et je vous
merci
souhaite
à Mathieu
une très très belle
journée.
Ah, c'est bien, vous finissez bien, Evelyne, voyez. Vous, vous me faites chaud au cœur.
Voilà. N'oubliez pas quand même.
On fait une bonne équipe avec Florence.
Mais oui.
Allez, à très bientôt en tout
Allez,
cas.
Au revoir à tous.
Au revoir. Fabrice Drouel, on ne s'est pas concerté, mais on reste dans le nucléaire aussi avec vous.
Mais absolument, quelques minutes. Absolument, avec les manifestations contre le projet Superphénix à Crémalleville et la manifestation du 31 juillet 1977 qui a fait un mort parmi les manifestants. Nous reviendrons sur cet épisode avec François Simon, aujourd'hui conseiller régional Midi-Pyrénées Vert. Il a participé à cette manifestation.
Et ce sera dans Affaires Sensibles, bien sûr.